Tout de suite sur Art District, c'est l'émission Graines d'avenir. Julie Boucher vous parle d'économie sociale et solidaire et vous fait découvrir des initiatives positives qui présagent déjà du monde de demain. Bonjour, c'est Julie Boucher, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, dans Graines d'avenir, vous allez entendre parler de politique. Comment réinventer l'Assemblée nationale? Comment redonner envie aux Français de s'engager, de participer à cette vie politique? Voilà le thème de la conférence à laquelle j'ai assisté le 20 septembre dernier. L'événement était organisé par MEC.org, une plateforme indépendante de mobilisation citoyenne qui agit pour collecter directement des propositions. Des députés étaient invités à venir découvrir ce monde des civic tech. De ce terme très branché, vous pouvez retenir qu'il s'agit de start-up qui veulent relancer la démocratie en proposant des outils, le plus souvent numériques, pour renouer le contact entre les citoyens et les élus. Ce rendez-vous a énormément mobilisé. Les organisateurs n'ont pas pu faire entrer tout le monde, mais Art District y était. Et je vous propose donc d'entendre l'introduction d'Axel Daucher, le fondateur de MEC.org, puis nous irons voir ce qu'en pensent les députés, avant de nous tourner vers certaines de ces civiques.
Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire ici ce soir? Alors, on n'est pas venu ici ce soir pour discuter de savoir si l'Assemblée nationale doit s'ouvrir à la société civile. Je veux dire, le président a fait une conférence de presse ce matin, a vraiment clairement établi la feuille de route, et puis de toute façon, on le sent bien, c'est une nécessité pour tout le monde. Donc c'est pas ça le sujet. On n'est pas venu ici non plus pour essayer de savoir comment faire pour faire une ouverture de principe de l'Assemblée nationale à la société civile. Là aussi, c'est tellement facile d'ouvrir une porte de jardin et de considérer que ça y est, on a transformé l'organisation, c'est pas ça. Si on est là, c'est qu'on a tous un défi commun qui est beaucoup plus difficile que ça. C'est de l'ouvrir dans les faits. D'avoir dans les faits des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui interagissent avec l'Assemblée nationale et qui permettent d'une part à ce que les Français se réapproprient cette institution fondamentale, mais au-delà de ça, de repositionner l'Assemblée nationale comme la maison des citoyens, ce qu'elle est depuis sa fondation. Et ça, ça a l'air simple, et vu de l'Assemblée, ça a l'air d'une ouverture ou d'une transformation interne. On peut vous dire que non, c'est pas simple. Et que ce n'est pas un problème de transformation interne, c'est un problème d'inventer, d'innover et de trouver toutes les manières d'engager des milliers de personnes dans un processus démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est ça notre défi commun. Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années, il y a des pionniers qui sont arrivés. Ces pionniers, c'est ce qu'on appelle des civic tech. Ce sont des associations, ce sont des entreprises dont la vocation et de permettre à plus de citoyens de s'engager dans la vie publique. De s'engager, d'avoir une action singulière, collective, dans l'intérêt général et la vie publique.
Prenons à présent le temps d'écouter un peu ce qu'en pensent les députés présents dans la salle. Si des invitations ont été envoyées à tout l'hémicycle, ce sont surtout ceux de La République En Marche qui sont présents ce soir. C'est le cas notamment de Valérie Petit, de la 9e circonscription entre Lille et Tourcoing.
Quand j'avais 18 ans, je voulais changer le monde, comme un certain nombre d'entre vous. Et donc je me suis dit, la politique, c'est le bon levier. Et puis j'y suis pas allée. Pourquoi j'y suis pas allée? Parce que je vivais dans un quartier, j'étais loin, parce que la carte orange, c'était cher, parce qu'il n'y avait pas Internet, parce que j'étais jeune, parce que je venais des milieux populaires, parce que j'avais pas 60 ans, parce que j'étais pas un homme, parce que j'avais pas fait Sciences Po. Il m'a fallu 20 ans. Il m'a fallu 20 ans pour poster sur une plateforme en ligne mon CV et ma lettre de motivation et retrouver et surtout renouer avec mon rêve. Je ne veux plus que dans ce pays, des gens aient besoin d'attendre 20 ans pour croire en leur capacité à rentrer dans le débat public. C'est pour ça que j'ai placé l'inclusion démocratique, le fait que chacun se sente inclus et soit inclus effectivement, en fait, au cœur de mon action. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement pour réaliser ce rêve d'inclusion démocratique? Pour que les gens n'attendent pas d'être comme moi, un peu âgés, pour se lancer. J'ai fait un, d'abord on met en place un programme d'empowerment, où là on va accompagner les citoyens pour qu'ils se constituent en commission parlementaire et vivent la vie du député et participent réellement à la fabrique de la loi, avec la volonté, non pas simplement juste de leur donner leur avis, mais de les mettre en capacité de prendre le pouvoir et de s'exprimer. Donc un programme d'empowerment. Deux, je vous en ai déjà parlé, c'est un bus. Les gens ne viendront plus, ils ne viennent plus. Moi, dans ma circonscription, il y a des endroits où on vote, il y a moins de 20% de participation. Donc je ne vais pas attendre qu'ils viennent dans une permanence, à une réunion publique, à une heure où ils travaillent, où ils doivent s'occuper de leur famille, où il n'y a pas de bus pour y aller, où ils n'ont pas les moyens de se déplacer. C'est fini. Et c'est ma responsabilité d'élu d'aller les chercher, d'aller renouer la conversation, de leur donner de la considération, de leur donner de la confiance pour revenir discuter. C'est pour ça que j'ai créé mon bus, qui ressemble à un bibliobus, qui est connecté, je vous en ai déjà parlé. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chez les gens, de discuter. Et de se donner tous les moyens humains et technologiques, parce que c'est quand les deux se mélangent de belle manière qu'on y arrive, pour ramener des citoyens dans le jeu public. Et puis je vais terminer en vous invitant à me rejoindre pour organiser le premier TEDx à Tourcoing, à la Pleine Image, l'année prochaine, sur le thème du retour du citoyen dans le débat public, où on parlera empowerment, civic tech, des choses belles, efficaces, innovantes, humaines et techno. Venez me voir, j'attends des orateurs charismatiques et je suis sûre qu'il y en a plein ici qui ont fait des choses incroyables qu'ils peuvent partager avec nous dans le Nord. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Bertrand Pancher, je suis député radical du département de la Meuse. J'avais quelques idées à vous soumettre. D'abord, la première, c'est que, je l'entendais tout à l'heure, la démocratie n'est pas en crise. La démocratie est en métamorphose. Ce n'est pas la peine de créer de l'anxiété dans toute cette affaire. Jamais nos concitoyens n'ont été aussi informés. Jamais ils n'ont été aussi formés. Jamais ils n'ont été par conséquent aussi méfiants par rapport à tout ce qui se passe. Et par conséquent, on vit une transformation complète de notre démocratie. Tout ça, c'est une chance extraordinaire parce que il y a beaucoup d'attentes, ça recrée des liens entre nous, tout ce qu'on a pété d'année en année avec notre système de consommation complètement cinglé. Donc on recrée des liens, et ces liens, c'est vraiment une chance pour nous tous et toutes. Première observation. Deuxième observation, j'ai peut-être un peu cassé la baraque, mais notre affaire, c'est pas une histoire de technique, de méthode. Le vrai problème, numéro un, c'est d'abord un savoir-être avant un savoir-faire. C'est la raison pour laquelle, un peu comme vieux routier de la démocratie participative, il y a une dizaine d'années, avec quelques amis, nous avons créé le think tank Décidé Ensemble, qui a pour objectif de créer en France une culture de la décision partagée. Nous allons, et c'est une invitation que je vous lance, nous avons beaucoup d'événements, et notamment début février, dans le courant du mois de février, à Lille, nous organisons les rencontres de la participation citoyenne pendant 3 jours. Nous serons 500, 600, 700 personnes vraisemblablement, avec des échanges internationaux, nationaux, et tout sera mis en place sous la forme collaborative. Troisième observation, quand on a compris que notre affaire, c'était d'abord un savoir-être avant un savoir-faire, c'est-à-dire discuter, pas prendre de décision sans en parler ensemble, se donner du temps. Après, les techniques, les méthodes, elles sont particulièrement importantes. Et vraiment, je salue les initiatives qui sont prises actuellement.
C'est à présent le tour du mathématicien Cédric Villani, député de La République En Marche.
Chers amis, je vais commencer avec un petit peu d'histoire. 9 mars 1790, on est dans la Révolution française et le sulfureux homme d'État, Talleyrand, prononce à l'Assemblée nationale un discours qui entrera dans l'histoire. Le discours qui lance politiquement le système métrique. Révolution mondiale dont les effets sont faits ressentir partout et dont nous les ressentons encore aujourd'hui. C'était l'un des exemples d'une longue histoire de coopération entre progrès scientifique et progrès politique, et qui, à certains moments de notre histoire, a été d'une importance considérable. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de cette alliance entre le scientifique et le politique, à l'heure où nombreux enjeux de politique publique relèvent de débats scientifiques techniques. Changement climatique, énergie, intelligence artificielle, ce que vous voulez, il y en a partout et c'est plus complexe que jamais. Et on a besoin d'institutions qui soient à la hauteur. En France, dans les années 1980, on a innové par rapport à ça en créant l'Office parlementaire scientifique, OPEX, un point de rencontre entre le Parlement et le monde scientifique. Très beau. Mais comme souvent, la France oublie ses bonnes idées et les laisse tomber. L'office est tombé peu à peu, en déshérence ou presque, quand on le compare aujourd'hui aux homologues européens, il fait pâle figure. J'en ai pris la présidence, ça va être mon boulot de le remonter. En termes de ressources humaines, de moyens, de la façon dont le scientifique rencontre de politique, du réseau et du rayonnement. On veut que ce soit un point où se rencontrent trois mondes. Le monde scientifique, le monde politique et le grand public, la société. Pour qu'on puisse inscrire les débats scientifiques en amont dans la fabrique de la loi, aussi tôt que possible, acculturer les politiques, préparer les débats publics autant que possible, et finalement faire en sorte que le progrès politique et le progrès scientifique viennent de pair autant que possible. Et expliquer et partager. Vous savez que le système métrique vient d'être changé, là, il y a quelques mois ? Nouvelle définition, changement radical de conception du système métrique qui reflète de nouvelles évolutions technologiques. Est-ce qu'on en apparaît dans le monde politique ? Pas du tout. Alors, dans le futur, à travers cet office, on fera en sorte que les citoyens soient parfaitement informés, que les politiques soient informés et qu'on puisse faire aller ensemble vers le progrès toutes ces composantes d'experts. Je vous remercie.
La conférence est terminée. Je suis maintenant aux côtés de Jean Massier, fondateur de la chaîne YouTube Acropolis, qui va nous raconter dans un instant le fonctionnement et le concept, et aux côtés de Clara Douce McGrath pour Vox, qui va aussi nous dire de quoi il est question. Alors d'abord, je voulais avoir votre point de vue sur cette conférence qui vient de se terminer. C'est un peu quand même le catalogue de 11...
C'est un cliché ambulant sur les startups, etc. On est sur un truc très, très classique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le petit monde de la Civic Tech, on se connaît tous très bien, on est tous membres du collectif Démocratie Ouverte, etc. Et le travail avec les parlementaires, on le fait déjà depuis plusieurs années. Donc ce soir, il y avait un côté effectivement bling-bling, très conférence, où on présente les catalogues. Et en même temps, c'était pas mal, parce que du coup, il y avait un marathon déjà de présentation de ce qu'on fait, mais aussi moi ce que j'ai bien aimé c'est que les députés pouvaient prendre la parole pour attendre de nous, pour nous dire ce qu'ils en pensent, et ça c'était bien ça.
Ouais. Clara,
c'était particulièrement intéressant que les députés nous parlent de leurs besoins, parce que nous c'est sûr qu'on est toujours en position où on sollicite les députés, alors que derrière là pour le coup pour une fois ils ont pu nous solliciter aussi, et c'était vraiment intéressant d'avoir cette confrontation entre les besoins et ce qui existe déjà et ce qu'on pourrait apporter aussi derrière.
Alors, venons-en au fait, à vos différentes occupations de la journée, parce que j'imagine que quand on lance des applications, des nouvelles, ça prend énormément de temps. Si on commençait par VoxBot, de quoi il s'agit exactement, Clara ?
En gros, le VoxBot, c'est un chatbot, donc un robot qui parle directement sur Facebook Messenger et qui permet aux jeunes de 18 à 35 ans de mieux s'informer sur le débat public pour pouvoir s'engager. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les jeunes ne s'engageaient pas dans la politique traditionnelle. Il y a 70% des jeunes qui n'ont pas voté aux élections législatives. Mais derrière, qui voulaient s'engager et juste qu'ils ne savaient pas comment et qu'ils ne se sentaient pas légitimes parce qu'ils ne savaient pas comment s'informer. Donc nous, derrière, on permet de décrypter l'actualité chaque semaine avec le VoxBot et on offre des pistes d'engagement pour les jeunes, pour ensuite qu'ils puissent avoir un impact sur le débat public.
Alors quand même, on a envie d'aller un peu plus loin. Ça veut dire quoi, décrypter cette actualité ? C'est sous quelle forme ?
En fait, c'est sous format conversationnel. En gros, on pose une question au VoxBot, typiquement, qu'est-ce qui se passe entre Trump et Kim Jong-un en Corée du Nord ? Et le VoxBot te répond en te disant, en fait, ce qui se passe, c'est que la Corée du Nord fait des essais nucléaires et les États-Unis réagissent de telle manière. Derrière, on propose aux gens des pistes pour pouvoir aller plus loin sur le sujet.
La cible, tu disais, les jeunes, moins de 35 ans, qu'est-ce qui va leur donner envie de venir ?
Déjà que le format est simple, en fait. C'est hyper facile d'accès d'avoir un robot qui parle directement dans Facebook Messenger, donc on reçoit les messages sur son téléphone. Et en plus, comme c'est un format de conversationnel, c'est des phrases très courtes et c'est des informations qui sont très résumées derrière.
Tu nous disais que ça avait été lancé il y a à peu près un an. Où vous en êtes aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a près de 50 000 utilisateurs qui reviennent chaque semaine pour justement avoir ces décryptages d'actualité, et on permet à de plus en plus de jeunes de passer à l'action. Donc on est super contents.
Et est-ce que vous avez une idée du profil? Parce que c'est bien, parfois on a une cible et puis on se rend compte que ben, ceux qui sont là ne sont pas forcément ceux qu'on attendait.
Ben, en fait, on sait qu'à 80% c'est des jeunes de 18 à 35 ans. Et derrière, on sait aussi que c'est des jeunes qui sont... plutôt éduqués, mais en fait qui sont très éloignés de la politique. C'est pas des gens qui ont fait Sciences Po, par exemple. C'est justement des gens qui ont des diplômes, qui commencent à travailler, mais qui ne s'intéressent pas et ne trouvent pas le temps de s'intéresser à la politique.
Je me tourne maintenant vers vous, Jean Massier. Vous, avec la chaîne YouTube que vous avez lancée, Acropolis, là aussi, vous vous adressez au public jeune, au public plutôt éloigné de la politique.
Ouais. Moi, le public qu'on réussit à toucher, c'est 15-35 ans et des gens vraiment largués de la politique.
Ah oui, 15 ans, parce que vous êtes très drôle, c'est ça ?
15 ans, ouais. On réussit à toucher des jeunes de 15 ans qui sont à un moment de leur vie où ils s'éveillent un petit peu à l'actualité et ils s'éveillent à la conscience politique. Et c'est génial parce que c'est un âge où ils sont en boulimie d'informations pour essayer de comprendre. Ils regardent beaucoup de vidéos, ils essayent vraiment de comprendre les tenants, les aboutissants du débat, ils essayent de se trouver eux-mêmes dans leur positionnement politique. Et nous, on réussit à faire le pari dingue de leur faire regarder des débats parlementaires parce qu'on pense que c'est possible.
Alors, on aimerait bien en savoir plus sur Acropolis. Quel est le concept ?
Le concept, c'est de commenter l'Assemblée nationale comme si c'était un jeu vidéo ou un match de foot. C'est ça le concept, tout simplement. C'est de rendre la politique accessible en l'expliquant en direct. Pendant qu'un député est en train de parler, je commente sa question. C'est-à-dire que j'explique qui il est, d'où il vient, pourquoi il parle de ça aujourd'hui, c'est quoi le rapport avec l'actualité, et pourquoi est-ce que le gouvernement répond de telle manière, ça correspond à quoi. Voilà, je donne toutes les clés de compréhension dont on a besoin pour comprendre un débat parlementaire.
Dans un langage cool.
Dans un langage normal, dans un langage des vrais gens, pas un langage empoulé de parlementaire. Je ne suis pas l'institution, je suis une initiative citoyenne. Voilà, on est une chaîne indépendante. Donc on peut se permettre d'avoir un langage normal et de montrer aux gens la politique autrement que comme un divertissement, mais aussi autrement que comme un long fleuve de prise de parole incompréhensible.
Ça reste un média très sérieux. Je veux dire, on n'est pas dans le... Est-ce que ça peut... tourner à la caricature ? Est-ce qu'on peut parler aussi de la cravate bleue rigolote du député qui est en train de parler ?
Ah oui, ben non, mais quand même, évidemment, parce que parfois c'est quand même très rigolo la politique, qu'on le veuille ou non. Et donc justement, la différence dans l'institution, on peut se marrer à gorge déployée quand vraiment parfois c'est très très drôle. Mais effectivement, le débat est sérieux parce qu'il essaye de parler de sujets sérieux. Mais effectivement, quand on regarde Acropolis, sans s'en rendre compte, en fait, on passe des très très bons moments et on n'a pas l'impression de regarder de la politique.
Ça fait combien de temps qu'Acropolis est lancé ?
Acropolis existe depuis 2 ans maintenant, on a réuni plus de 50 000 personnes au total.
Est-ce que vous restez qu'à l'Assemblée nationale ?
Ah non, on fait Assemblée nationale, Sénat, CESE, Parlement européen, Parlement du Québec, Parlement du Canada, et on fait même l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies aussi. Tout ça commenté en direct.
Vous êtes combien dans l'équipe ?
On est 4 à plein temps à Paris, plus une trentaine de bénévoles partout en France.
Alors, j'ai quand même une petite question... On parlait la même question que pour Clara. Vous aviez une cible, 15-35. Ouais. Est-ce que vous y retrouvez ou est-ce que vous êtes surpris du résultat ?
Alors moi, je ne m'attendais pas à toucher les moins de 20 ans. Et je suis effectivement surpris de voir des collégiens, des lycéens. Et je suis très content. Donc du coup, j'ai un peu réorienté le projet pour vraiment m'adresser à eux parce que c'est vraiment la cible qui m'intéresse le plus. Donc j'étais surpris au début de voir des jeunes de moins de 20 ans parce que je pensais vraiment m'adresser qu'à des gens un peu plus âgés, des étudiants, et en fait pas du tout, il y a des collégiens, des lycéens qui grâce à Acropolis s'intéressent à la politique et regardent nos émissions, donc je suis très content et on a un peu réorienté le projet pour s'adresser vraiment à cette cible là. Par contre, il y a un autre truc, effectivement on s'attendait pas à ça, c'est qu'on a beaucoup plus de garçons que de filles, et donc on a un vrai enjeu actuellement de développement pour s'adresser à un public féminin parce qu'on croit fortement à la parité en politique, parité partout d'ailleurs, mais d'abord en politique, et donc on voudrait réussir à dire aux filles que ça les concerne aussi, ce truc, et que non, la politique n'est pas un truc de mec.
Est-ce que vous savez s'ils vont plus loin? Là, ça fait 2 ans, vous avez un petit recul quand même. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir joué un rôle sur la participation aux différentes élections? Est-ce que ça peut être accélérateur ou pas?
Ça peut être accélérateur. Nous, après, on n'est pas là pour donner un discours prescriptif aux gens, de leur dire quoi faire, quoi penser. Déjà, sûrement pas quoi penser, mais même quoi faire. En fait, ceux qui veulent pas voter, j'ai pas de problème avec ça. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de leur donner des arguments, de leur donner des clés de compréhension pour les aider à se forger leur propre opinion. Et ça, effectivement, on a des résultats assez spectaculaires chez notre public parce qu'on a des gens qui arrivent avec des idées très préconçues, très arrêtées et parfois très violentes. quel que soit le camp, quelle que soit l'idée, etc., et qui, à force de regarder nos émissions, ne mettent pas d'eau dans leur vin, mais mettent des arguments dans leur pensée. Et ça, c'est génial. C'est là qu'on a vraiment de l'intérêt et qu'on réussit à avoir un impact sur les citoyens.
Combien il y a de personnes qui suivent, vous savez?
Alors nous, on a plus de 20 000 abonnés sur YouTube et ça monte tous les jours. On a plus de 10 000 abonnés sur Twitch. Et combien de personnes regardent, ça dépend vraiment des émissions, mais on fait entre 200 et on est monté jusqu'à 10 000 parfois. Et en tout cas, sur la plateforme Twitch, Acropolis, c'est le premier talk show français. Et parfois, ça nous arrive d'être le premier talk show du monde.
J'aimerais bien savoir quel est le hit parade, là. Quel est le sujet qui...
Il y avait eu les attentats fin 2015. Il y avait eu la loi travail qui avait très très bien marché, très très bien marché. Et il y avait les élections présidentielles, les débats, le débat Macron-Le Pen par exemple. On a fait plus de 10 000 personnes pendant toute la soirée.
Alors tous les deux, Clara pour Vox.org et vous, Jean Massier pour Acropolis. Je voudrais savoir comment vous pensez aller chercher les jeunes qui ne sont pas là, que vous avez touché pas encore, que vous rêvez de toucher. Comment on peut aller les chercher, Clara ?
Eh ben, je pense qu'en fait, déjà, il y a un premier enjeu, c'est de sortir un peu de notre bulle. C'est un gros enjeu des civic tech aujourd'hui, qui sont hyper urbaines, même s'il y en a bien sûr des initiatives qui sont plus implantées sur le territoire, partout sur le territoire. Il y a un vrai enjeu de sortir de notre bulle et ça passe par aussi changer nos schémas de pensée et n'assumer aucune connaissance quand on lit les informations. Vraiment partir de l'information zéro et construire dessus et sensibiliser les jeunes au fur et à mesure en réexpliquant tous les termes, en réexpliquant tous les enjeux, en réexpliquant tous les contextes.
Mais ça, c'est une fois qu'ils sont déjà arrivés chez vous. Mais comment vous faites pour qu'ils viennent justement ?
Donc l'année dernière, on a fait un tour de France pour justement partir à la rencontre des jeunes sur tout le territoire. Et donc on a embarqué 30 jeunes avec nous et on a organisé plus de 80 débats et on a rencontré 50 000 jeunes sur le terrain. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le bot, ça marche du bouche à oreille. Et du coup, en fait, plus on sensibilise une personne, qui ensuite en sensibilise 5, qui ensuite en sensibilise 10. Donc en fait, c'est comme ça que nous, on veut vraiment construire tout le maillage sur tout le territoire.
C'est pas parce que c'est numérique que c'est pas ancré dans le monde réel et dans le bouche à oreille des cercles amicaux. C'est bien ça pour vous aussi, Jean?
Oui, bien au contraire, effectivement, bien sûr. C'est là qu'on se rend compte effectivement que ça marche. Nous aussi, le bouche à oreille marche très très bien. Le bouche à oreille, d'ailleurs, ailleurs que sur Internet. Beaucoup de gens qui convertissent leurs potes, leurs cousins, même leurs parents parfois, en disant « Regarde, j'ai découvert ça, c'est trop bien ». Et on en fait des nouvelles personnes qui s'abonnent. Nous, après, on a une stratégie très agressive pour aller chercher les gens. On va chercher les jeunes là où ils s'attendent pas du tout à ce qu'on leur parle de politique. Et que c'est pour ça qu'on diffuse sur une plateforme de jeux vidéo. Et donc les gens commencent par halluciner en nous voyant là, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui parle de politique? Et ensuite ils comprennent le principe, ils s'abonnent et ils trouvent ça génial. Mais donc on fait du jeu vidéo, on fait même des émissions de jeux vidéo, on organise des apéros aussi dans les villes, etc. On fait des trucs vraiment hors contexte, parce que c'est ça notre idée, c'est de dire que la politique doit sortir du costume cravate et des ordres de la République. Elle doit retourner dans la population, être une politique populaire.
Et je voudrais vous demander aussi pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça fait de travailler là vers un nouveau modèle, vers peut-être des nouvelles solutions? Comment on se sent? Comment on le vit, Clara?
Bah, ça donne déjà un sacré sens au fait de se lever le matin et d'aller au boulot. Il y a des jours où on a l'impression d'être des super-héros, après d'autres, la plupart, où en fait on se dit mais qu'est-ce qu'on a accompli, c'est rien par rapport à tout ce qu'on a à accomplir. Donc c'est beaucoup de haut et de bas, mais après ça donne du sens en fait.
Je vois que vous acquiescez.
Ah oui, non mais je suis absolument d'accord. En fait, je pense que si on était rationnel complètement, on n'aurait jamais fait ce qu'on fait. On est un peu détaré. En fait, on croit fondamentalement dans ce qu'on fait. Et effectivement, il y a des moments assez géniaux dans lesquels on réussit et on a du retour sur investissement. C'est terrible ce mot, mais en fait, on a du retour humain et c'est génial. Mais le reste du temps, en réalité, on s'en rend pas compte, mais on galère énormément. On est un secteur extrêmement précaire. On compte pas nos heures. On est tous très fatigués. Pour certains, dont moi, on a abandonné des carrières, etc., avec des salaires mirobolants parfois pour se lancer dans un truc au chômage. Donc c'est un peu paradoxal, mais on le fait parce qu'on y croit comme des dingues. On est un peu dingue, mais on y croit fort et ça marche, donc c'est pour ça qu'on y croit.
L'avantage, c'est qu'on est dingues tous ensemble, donc ouais. Ça nous permet il y a une sacrée solidarité aussi dans la civic tech où à la fin on se retrouve tous et on est dingue, mais on y croit quand même, et on est épuisé, mais on y croit quand même, quoi.
Merci à tous les deux, Jean Massier pour Acropolis et Clara Douce-McGrath pour Vox.org.
merci.
Au
aux côtés à présent de Clara Boudéenne de Parlement et Citoyen et de Axel Daucher de mec.org. On va faire connaissance ensemble pendant quelques minutes, mais avant tout, Axel Daucher, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez eu envie d'organiser un rassemblement comme celui-ci, même si j'imagine que vous êtes porté par toutes les autres startups. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit c'est maintenant ?
En fait, nous, on est plutôt les nouveaux venus dans l'affaire, parce que mec.org est une société qui a un an, là où la plupart des innovations que vous avez pu voir sont des innovations qui ont été créées depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et donc, en arrivant, on a été ébahis par la profusion d'innovations qu'il y avait. On est à un moment où les institutions sont prêtes à s'ouvrir. Maintenant, elles ne réalisent pas à quel point l'enjeu principal, c'est de réussir à faire venir les gens et pas simplement d'ouvrir la porte. Et toutes les boîtes que vous avez vues sont des associations ou des entreprises qui ont trouvé plein de moyens d'engager les gens de façon massive. Donc là, aujourd'hui, quand on a discuté entre acteurs de la Civic Tech, l'idée de se réunir et d'interpeller l'Assemblée nationale à un moment clé de sa vie nous semblait extrêmement naturel. C'était le moment de le faire.
Clara Boudéenne, je vous vois acquiescer. Vous aussi, vous êtes dit, c'est maintenant qu'il faut y aller.
C'est vrai que le renouvellement d'une Assemblée nationale, ça se passe que tous les 5 ans. Et avec une telle énergie, je dirais, et une telle volonté aussi de la part des acteurs politiques d'agir, c'est ça qui compte. Parce qu'en fait, nous, on fait ce qu'on fait depuis déjà 4 ans. Mais la preuve en est que sans la volonté politique et sans aussi la volonté d'action et de prendre en compte la vie des citoyens, là, on n'avance à rien. Donc là, on sent qu'il y a une vraie volonté de leur part et c'est pour ça qu'on souhaite s'en saisir aussi.
Alors, qu'est-ce que vous leur proposez justement à Parlement et Citoyens ? Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, Parlement et Citoyens, Parlement et Citoyens proposent donc aux parlementaires et aux citoyens d'écrire les lois ensemble. Donc, on a élaboré une méthode collaborative de rédaction de la loi qui fonctionne maintenant depuis 4 ans. Donc, on a commencé par une expérimentation, on l'a testée avec des parlementaires, des citoyens, etc., qui a fait plusieurs preuves. Donc, il y a eu 10 projets qui ont été co-construits, plusieurs lois qui ont été approuvées, qui ont été votées ensuite en hémicycle. Donc, c'est-à-dire que les citoyens ont apporté leurs idées, ont voté aussi sur les idées des parlementaires. Toutes les idées, en fait, étaient présentes, toutes les propositions étaient présentes sur la plateforme. Et en fait, à la fin, nous, on a fait une synthèse donc cartographique pour balayer l'ensemble des idées présentes. Puis ensuite, les parlementaires ont pu dire quelles idées ils reprenaient pas, et surtout de justifier pourquoi ils le faisaient, parce que l'important pour le citoyen, c'est d'avoir un retour sur les idées qu'il a proposées. Donc en fait, ce qui se passe au final, c'est que plusieurs lois ont été votées. Comment ça fonctionne ? Ça se passe sur un site, mais ça se passe aussi en physique, disons-nous, dans une réunion, dans la vraie vie. Et donc ça part tout en France à l'aide d'un réseau d'ambassadeurs citoyens. Donc, qui est mis en place dans chaque circonscription. Un ambassadeur organise des débats parlementaires localement.
Combien est-ce qu'il y a de personnes qui vous suivent et qui participent ?
Il y a une communauté de 40 000 citoyens et 40 parlementaires. Donc, voilà.
Comment vous envisagez de faire grandir cette communauté ? Parce que 40 000, c'est bien, mais on imagine bien qu'à l'échelle de la France, ça reste un colibri, quoi, la goutte d'eau.
Justement, on travaille beaucoup avec Colibri. On travaille beaucoup avec eux. Et ensuite, en fait, chaque sujet fait grandir une nouvelle communauté. Si on parle d'écologie, on va avoir beaucoup de gens qui sont intéressés par l'écologie et de motivés. Si on parle d'une loi sur l'économie, on va avoir beaucoup d'acteurs économiques motivés. Donc en fait, la communauté grandit à chaque nouveau projet de loi et surtout aussi quand on fait des débats physiquement, parce que ceux qui ne sont pas en ligne, il faut aller les chercher d'autres manières. Et donc nous, c'est en faisant des cafés citoyens, en faisant des réunions, des ateliers législatifs par exemple.
Axel Daucher, vous, comment est-ce que vous vous organisez à mec.org ?
En fait, le principe, pour reprendre ce que dit Clara, c'est que il faut regarder l'engagement comme quelque chose de à géométrie variable. L'engagement qui permet de collaborer à la construction d'une loi, c'est un engagement fort, ça demande des citoyens qui vont passer du temps. Donc le but, c'est pas d'en avoir des centaines de milliers, puisqu'en fait, on a des citoyens qui sont très engagés. C'est une vraie décision. En revanche, il faut aussi créer des modes d'engagement légers, mais qui vont pouvoir engager beaucoup, beaucoup plus de gens. C'est un petit peu, nous, notre terrain, c'est-à-dire d'être capable, sur des questions concrètes, sur la réinvention de l'école primaire ou sur quelle est la prochaine question au gouvernement, de solliciter 100 000, 200 000, 500 000 personnes et d'en sortir de l'intelligence, d'en sortir de l'action concrète et de peu à peu emmener les gens vers de l'engagement un peu plus engagé, un peu plus profond et du coup de maximiser finalement le poids de la société civile, le poids des citoyens et dans la vie publique et dans la transformation de la société.
Et concrètement, comment est-ce que ça se passe ?
Ça se passe par une méthode qu'on a conçue qui part d'une question ouverte. Donc, je parlais tout à l'heure de comment réinventer l'école primaire ou comment réduire les violences faites aux femmes ou quelles questions pour le gouvernement la semaine prochaine. Et là-dessus, sur cette question ouverte, de réussir à faire contribuer par un dispositif digital entre 50 000 et 100 000 personnes, les gens vont soit répondre à la question, soit prendre position sur les réponses des autres citoyens. Et du coup, on va être capable d'en sortir une intelligence collective, de faire émerger les questions les plus engageantes, les plus consensuelles, les plus dissensuelles, les plus populaires. Et grâce à ça, on arrive à vraiment créer de l'action publique et de l'action de la société civile.
Quel recul vous avez aujourd'hui sur votre action? Est-ce que vous l'en avez ou pas encore peut-être?
Non, un recul, le premier point que je dirais, c'est le niveau d'engagement des gens est bien plus élevé que ce que je pensais au départ. C'est-à-dire que sur n'importe quelle question, on a des taux de participation que moi, je n'ai jamais rencontré dans aucun autre business. Les gens ont envie de participer. Il faut donner un sens à cette participation. Et c'est ça l'enjeu collectif, c'est que la participation des citoyens, elle serve à quelque chose. Soit elle sert par une action concrète de transformation du pays, en association avec des entreprises, des associations, etc. Soit elle sert pour agir sur le fonctionnement des institutions. Mais si on arrive à faire le lien entre l'action et la contribution initiale, la société civile a une force qui n'existe plus dans les pouvoirs publics. Et c'est celle-là qu'on veut mobiliser.
Clara Bodden, je vous vois acquiescer à ce que dit Axel. Vous aussi, vous vous y retrouvez dans ses propos?
Oui, complètement. Et si on crée un réseau d'ambassadeurs citoyens, c'est uniquement des bénévoles qui vont organiser des ateliers législatifs dans les circonscriptions. L'atelier législatif, rien que le mot, c'est que en fait, faire la loi, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont apprendre le fonctionnement des institutions, qui vont être formés, accompagnés, pour nous en tout cas, par nous, enfin par notre équipe, mais qui vont s'intéresser au fonctionnement des institutions pour pouvoir former ensuite et faire de la pédagogie auprès d'autres citoyens. Et donc ça demande un engagement énorme, rien que d'organiser un débat citoyen à côté de chez soi, de se documenter, donc de s'informer sur les lois en cours, mais aussi de participer ensuite avec des idées concrètes, de faire des retours, etc. Donc ça, c'est vraiment un engagement qui prend du temps, mais on sent qu'il y a une telle énergie, en fait, et une telle volonté. Les citoyens souhaitent participer sur les sujets qui les concernent, et donc du coup, sur les sujets qui les intéressent, on ne va pas les faire participer sur toutes les lois, mais sur les lois qui concernent soit leur métier, soit leur quotidien, leur mode de vie.
Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux lois justement qui ont pu voir le jour grâce à vous ?
Complètement. Alors l'une des lois, c'est une loi sur les pesticides à usage non agricole qui a été portée par un sénateur qui s'appelle Joël Labbé. Au début, il avait juste une idée. Les pesticides sont pas forcément bons, donc si on peut les limiter dans les endroits qui sont pas agricoles, tant mieux. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il a décidé de le mettre en consultation sur Parlement et citoyens, et ça a super bien marché. C'est-à-dire que les citoyens ont complètement approfondi son idée, ils ont ajouté plein de nouvelles idées justement auxquelles ils n'avaient pas pensé, plein d'expériences concrètes aussi, de terrain, qui sont un retour et que le parlementaire n'a pas le temps de prendre en compte quand lui fait son travail parlementaire. Et donc à la fin, ça a donné la loi sur les pesticides. Mais par exemple, pour vous donner un exemple concret de à quoi ça sert et l'impact, c'est qu'au lieu d'interroger le président qui représente par exemple les apiculteurs de France, eh bien, il va interroger par notre plateforme 400 apiculteurs. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un retour qui est beaucoup plus qualitatif, qui représente beaucoup plus ce territoire, et on va enfin avoir des lois qui vont être beaucoup plus en cohérence avec la réalité.
J'ai envie de revenir à cette notion de moment. Est-ce que là, on n'est pas à un moment charnière, justement, des gens qui ont envie de reprendre un peu le pouvoir Qu'est-ce que vous en pensez, Axel ?
Ouais, je pense qu'on est vraiment à un moment clé. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais la motivation pour moi de ce basculement, non seulement des citoyens, hein, mais aussi des acteurs économiques, mais aussi de tous les acteurs de la vie publique et de la société civile, c'est pas un mouvement qui est lié fondamentalement à une vertu, qui est de dire on va s'intéresser à l'intérêt général. Je pense que c'est un mouvement qui est un reflet positif de la peur. Aujourd'hui, les gens ont peur pour la société, ils ont peur pour leurs enfants, leur futur, leur marché, leurs emplois, et que pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, ils se disent que s'ils ne se mettent pas eux-mêmes à se soucier de l'intérêt général, la société peut vraiment exploser. Aujourd'hui, en France, on a deux totems. Hein. On a le totem de le vote est le seul moyen de l'expression populaire. Et on a un deuxième totem, c'est l'État est le garant de l'intérêt général. Donc, ces deux totems, il faut les challenger parce qu'ils ne marchent plus. Aujourd'hui, l'État est souvent désarmé, il y a des problèmes de moyens, et cette impuissance politique génère un désengagement citoyen. Le bon côté, c'est qu'en revanche, quand on donne la possibilité aux gens de s'engager, quand on leur trouve des engagements progressifs qui dépendent de finalement qui ils sont et à quoi ils sont prêts à faire, et qu'on donne un sens à cet engagement, c'est-à-dire un impact, une action concrète derrière, on a des forces de transformation qui sont absolument considérable pour réellement transformer le pays. Et puis pour finir, je dirais que la mobilisation citoyenne, l'engagement dans la vie publique, l'engagement dans l'intérêt général, c'est pas seulement un enjeu de transformation du pays, c'est aussi un enjeu de reconstruction du socle commun de la société. Quand on s'intéresse à l'intérêt général, on reconstruit du socle commun. On arrête de regarder ses intérêts particuliers, corporatisme, communautarisme, etc. Et on va peu à peu reconstruire par l'action commune un vivre ensemble et une société plus stable que celle qu'on a aujourd'hui. Donc l'engagement par l'action est une solution de transformation, c'est aussi une solution pour préserver le socle de notre démocratie qui est la société telle qu'on la connaît.
Pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous motive? C'est pas évident de partir dans cette direction-là, de lancer des start-up, de vivre peut-être un peu d'amour et d'eau fraîche et d'informatique. Comment ça se passe et qu'est-ce qui... Voilà, je vois que vous avez le sourire, Clara, ça fait plaisir.
Non mais oui, bien sûr, c'est normal, qu'est-ce qui me motive? En fait, je crois que la première fois que je suis tombée dans les civic tech, c'est en rencontrant Armel Lecause en ligne, disons. En fait, il a posté une vidéo de lui qui expliquait un peu son parcours, qui en fait est allé en stop rencontrer l'ensemble des beaucoup de maires en France et qui allait les rencontrer. Donc en stop, il rencontrait les citoyens et en fait, en rencontrant les maires, il leur proposait de dormir chez eux. Et ça, c'était une vraie rencontre. Pour moi, je me suis dit, mais voilà, en fait, on a une action publique qui est tellement éloignée de ce qu'on fait, du politique, et qui est tellement éloigné des citoyens que c'est plus possible en fait de faire autrement. J'ai envie de pouvoir participer, j'ai envie en fait de donner aussi surtout la possibilité aux autres de participer, parce que moi je me sens pas experte partout. Peut-être que je suis à force un peu plus experte de la civic tech, mais là c'est pas le sujet. L'objectif, c'est qu'on donne à l'expertise citoyenne, ce qu'on peut dire expertise citoyenne sur certains sujets, la possibilité de s'exprimer, et ça c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et moi, ça me donne envie de me lever tous les matins.
Et vous, Axel?
Alors moi, j'ai pas un parcours engagé, hein. J'ai un parcours d'aventurier. J'ai dirigé plein de boîtes, plutôt dans la tech, dans des contextes très variés. Et pour moi, ça a été la rencontre de cette perception de la situation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la société a un basculement où elle a non seulement besoin, mais la capacité de s'auto-transformer, mais aussi un basculement individuel, qui est de se dire, bon ben voilà, maintenant j'ai envie de donner plus de poids à ce que je sais faire dans d'autres business, ben faisons-le à l'endroit où ça change vraiment les choses.
Est-ce que c'était juste une question de poids ou aussi une question, j'allais dire, de croyance, enfin quelque chose qui vient de l'intérieur, de se dire ça fait plus de sens pour moi aussi peut-être ?
Oui, mais évidemment, c'est la rencontre entre l'impact et le sens que ça a pour moi. Mais les deux sont indissociables. C'est pas simplement une démarche qui a pour but de me nourrir intellectuellement ou spirituellement sur à quoi je sers. C'est aussi parce que je pense que c'est là où je suis le mieux utilisé pour servir à quelque chose. Donc c'est vraiment la rencontre des deux.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous, Axel Daucher de mec.org et Clara Boudéen de Parlement et Citoyens.
Bonjour, c'est Armel Lecause, cofondateur de Démocratie Ouverte, qui est un collectif qui regroupe beaucoup d'innovateurs démocratiques.
Qu'est-ce que ça veut dire ça, innovateurs démocratiques ?
C'est tous ceux qui considèrent que notre modèle politique actuel devrait être beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire donner beaucoup plus de place aux citoyens dans la prise de décision, mais aussi dans les actions directes d'intérêt général. Et du coup, les innovateurs démocratiques, c'est ceux qui trouvent des solutions, qui sont créatifs pour répondre à cette envie de plus de participation et d'implication citoyenne avec des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de faire, des nouvelles postures. Ça peut être des porteurs de projets, des civic tech, des gens qui utilisent le numérique pour faire de la démocratie autrement, mais ça peut être aussi des journalistes, ça peut être des élus, parce que tous les élus ne sont pas tous pourris, heureusement. Il y en a beaucoup qui sont justement à la recherche d'une autre forme d'implication et d'une autre forme de relation aux citoyens. Donc on travaille avec eux. Ça peut être des agents de collectivité à l'intérieur de l'administration. En fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à transformer notre modèle démocratique vers un modèle encore plus démocratique.
Alors concrètement, comment vous fonctionnez ?
Démocratie Ouverte, c'est une association, loi 1901. On est un peu la logique d'être le Greenpeace de la démocratie, c'est-à-dire qu'on regroupe des citoyens qui sont militants de cette question-là, des porteurs de projets. On fait des événements. Là, on a un événement qui est organisé en partenariat avec Démocratie Ouverte. Parfois, on en organise nous-mêmes. On essaye d'intervenir dans les médias, auprès des décideurs, dans une sorte de lobbying citoyen pour que cette question-là arrive au centre des débats. Et puis, on a aussi deux programmes d'action. Un programme qui est une forme de laboratoire, où on va tester des choses, parce que quand on innove et quand on est créatif, il faut pouvoir tester des choses. Donc là, ça va être avec par exemple, on va travailler avec la région Centre-Val-de-Loire pour tester un programme de démocratie permanente. On va travailler avec la ville de Mulhouse, donc on va tester des choses avec des collectivités ou avec d'autres échelons. Et puis on a un incubateur. Donc là, c'est si vous avez un projet d'innovation démocratique, que ça soit au stade de l'idée, qu'il soit déjà construit ou même déjà testé, on vous accompagne à le propulser, à le développer plus, à le muscler, à faire des plus de connexions avec des décideurs ou avec des citoyens ou avec un modèle économique plus stable. Donc ça, c'est l'incubateur qui s'appelle Système D.
Armel Lecaus, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé là. Il paraît que vous avez fait un petit tour de France.
Ouais, moi je suis designer à la base. J'ai fait une école de design et je me suis aperçu que les outils et les méthodes du design pouvaient être extrêmement importants et intéressants pour être créatif et innover en politique. Et dans les outils du design, il y a notamment le fait d'aller à la rencontre des usagers d'un produit ou à la rencontre, d'aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Et donc j'ai traduit cette démarche de designer qui est d'aller sur le terrain dans la politique. Et donc j'ai été sur le terrain, je suis parti pendant les élections municipales. Donc en 2014, pendant 6 mois, à m'inviter à dormir chez les maires et les candidats au municipal. Et je faisais tout ce voyage en stop. Donc j'ai été voir 111 candidats au municipal ou maires qui tentaient de se faire réélire pour leur poser la question. Et c'est pour ça que j'allais dormir chez eux, c'était pour passer un vrai temps de discussion avec eux, pour leur poser la question de la société qu'ils voulaient léguer à leurs enfants, de comment est-ce qu'ils réussissaient à pratiquer de la démocratie. Et j'essayais de cibler ceux qui étaient les plus innovants sur ces questions de citoyenneté et de démocratie.
Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, de cette aventure ?
Déjà, je me suis aperçu qu'on a l'impression que les citoyens et les élus sont déconnectés. Je pense que c'est en partie vrai, mais uniquement en partie. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'élus et de personnels politiques qui se rendent bien compte que le système dans lequel on est, il dysfonctionne pour répondre aux gigantesques défis socio-économiques, environnementaux, le chômage, le réchauffement climatique, tous ces trucs-là. On n'est pas organisé de la bonne manière pour y répondre. Et ça, les élus, autant que les citoyens, s'en rendent compte. Et donc, du côté des élus, autant que des citoyens, il y a des gens qui sont prêts à se mettre en dynamique pour retrouver des solutions. Et je me suis aussi aperçu que quand on était passif, quand on râlait, quand on disait en fait les élus font pas ci ou les élus font pas ça, on est dans une posture de consommateur en tant que citoyen. Et on dit un peu j'ai voté, comme on dirait j'ai payé, puis j'attends un service en retour. Ça, c'est ça qui mène à une forme de désespoir politique. Tous ceux qui sont en action, qui s'engagent, alors ça peut être dans les partis politiques, mais surtout qui s'engagent dans des associations, dans leur quotidien, dans des nouvelles formes de démocratie, le fait d'être en action, ils sont beaucoup plus positifs parce qu'ils voient aussi toute cette France qui se réinvente, tous ces territoires qui se réinventent, et les territoires, les 36 000 communes en France, c'est une espèce de laboratoire de créativité et d'innovation démocratique. Donc ça, c'est un constat absolument génial de ce Tour de France, mais même d'autres voyages politiques que j'ai pu faire par la suite.
Dernier entretien et non des moindre, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, a accepté de répondre à mes questions. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, j'aimerais votre avis, est-ce que vraiment l'Assemblée nationale est prête à se tourner vers ces civic tech ?
Oui, je crois que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, qui est une assemblée profondément renouvelée, 72% des députés sont des nouvelles et nouveaux députés élus pour la première fois aux élections de juin dernier, et ces députés ont envie, sont à la recherche de moyens, d'outils, y compris d'applications, pour être, non pas connectés au sens technologique du terme, mais connectés aux citoyens, connectés à l'apport des citoyens, connectés aux propositions, aux avis des citoyens, y compris en suscitant, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans les propositions qui sont faites par ces startups de Civic Tech, c'est qu'ils font des propositions pour aller vers les citoyens, parce qu'il y a les citoyens qui ont envie d'interpeller leurs députés, qui le font déjà d'ailleurs, hein. Mais il est aussi important que les députés, sans cesse, tout au long de leur mandat, se disent comment je peux aller vers les citoyens pour leur dire ce que je fais, mais aussi pour recueillir leur avis.
Et les députés sont prêts à ça aussi, quels que soient les bords politiques, à votre avis ?
Je crois que, j'ai pas fait de sondage parmi les 577 députés, mais je crois que beaucoup de députés sont prêts à cela. que ce n'est pas forcément une question de couleur politique. En effet, il peut y avoir sans doute des réticents dans tous les groupes, mais la très grande majorité de tous les groupes, à mon avis, est très allante, parce que les députés sentent bien que on ne peut pas fonctionner sur le principe de vivons heureux, vivons cachés, ou sentent bien qu'il y a un risque à l'Assemblée nationale d'être un peu dans une bulle ou d'être perçu comme étant dans une bulle, alors que ce n'est pas vrai. En plus, la plupart des députés vivent comme monsieur et madame tout le monde, font de la gymnastique d'ailleurs, de transport entre Paris et leur circonscription toutes les semaines. Donc ils sont au contact des réalités de celles et ceux qui les ont élus toutes les semaines, et c'est important qu'ils le gardent, mais qu'en même temps il puisse y avoir un travail de fond. C'est le contact avec les citoyens, c'est pas simplement les citoyens qui viennent demander quelque chose, y compris de résoudre un problème qui peut passer par la loi, mais c'est aussi qu'est-ce que les citoyens peuvent apporter pendant 5 ans entre deux élections comme proposition de loi, d'amendement ou comme explication, tout simplement demande d'explication sur tel ou tel débat qui ont cours à l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous pensez que ça peut contrer cette défiance d'une partie des citoyens français vis-à-vis de la politique ?
Oui, c'est l'enjeu de ces chantiers de transformation de l'Assemblée nationale que j'ai lancé, combattre la défiance, le sentiment de défiance qui est important. Il faut en être conscient, il faut être lucide, il faut regarder les réalités en face. J'invite mes collègues députés à le faire, d'ailleurs, à ne pas voir le spectre de l'antiparlementarisme derrière toute critique ou toute demande de compte, de demande aux députés de rendre des comptes, ce qui est normal. Ça fait partie de notre mandat de rendre des comptes, puisque nous sommes les représentants du peuple français réunis en Assemblée nationale. Et en même temps, nous ne sommes pas dupes du fait qu'il y aura toujours un volant de citoyens qui sont anti-parlementaires et qui sont pour qui, de toute façon, le travail parlementaire, quel qu'il soit, est soit inutile, soit contre-productif. Mais je crois qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont envie que ça marche et qui sont frustrés de voir que souvent l'Assemblée nationale donne l'impression d'un système à bout de souffle qui ferait des débats pour débattre en oubliant qu'il faut trancher, décider, réformer, avancer, et que d'ailleurs quand on le fait, bah, évidemment il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre à l'Assemblée, puis aussi à l'extérieur de l'Assemblée, c'est la démocratie, mais qu'il y a la satisfaction de voir qu'on ne tourne pas en rond dans des débats qui ne débouchent sur rien.
Est-ce que vous réfléchissez à un moyen de faire entrer plus de participation de la vie citoyenne à l'Assemblée ?
Oui, c'est un des axes de la réforme, des transformations de l'Assemblée nationale que j'ai lancée, de se doter d'outils, de réfléchir d'ailleurs sur quels sont les meilleurs outils pour que les citoyens aient une capacité d'intervention dans ce que j'appelle la fabrication de la loi. Et je crois que c'est tout à fait possible, qu'il y a déjà des outils qui existent. Et là, les Civic Tech ont montré des choses qui peuvent être tout à fait instructives et utiles.
Notamment les pétitions en ligne ?
Les pétitions en ligne, les propositions d'amendements, voire de lois, les questions suggérées, y compris peut-être, pourquoi pas, pour des questions d'actualité citoyenne, etc. On peut inventer, en tout cas moi je crois qu'on a tout intérêt, et c'est l'appel que j'ai lancé à mes collègues députés, de faire preuve d'inventivité.
Merci à vous, François Bruy, le président de l'Assemblée nationale.
Voilà, c'est la fin de cette émission Graines d'avenir consacrée au Civic Tech, un monde que vous avez peut-être découvert aujourd'hui et qui risque encore d'évoluer dans les mois et les années à venir. Retrouvez tous les liens et infos qui ont été cités sur notre site internet www.artdistrict-radio.com. C'était Julie Boucher, je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.
C'était l'émission Graines d'avenir sur Art District, présentée par Julie Boucher, à retrouver tous les premiers lundis du mois à 16h.